Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir avec vous, Olivier Bois, bonsoir.
Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Soir avec un invité exceptionnel ce soir, veille de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Alain Bernard est avec nous à 18h15, sacré en 2008 à Pékin, champion olympique sur la distance reine du 100 mètres nage libre. Il nous racontera ses 47 secondes, 21 centièmes qui ont changé sa vie, qui nous ont fait rêver et comment lui a vécu ses heures justement avant le début de la compétition. Avant cela, le jour et la chaleur en une ce soir. On l'a attendu, le soleil, il est bien là. On sera à Toulouse dans un instant avec Patrick Tégéraud. Comment améliorer les systèmes de secours sur les numéros d'urgence? Le rapport d'enquête a été publié après les bugs sur le 15, sur le 17, sur le 112. C'était le 2 juin dernier. Orange n'était pas prêt à faire face. On rappelle que 6 personnes avaient perdu la vie, faute peut-être de pouvoir être pris en charge assez vite. La course contre la montre continue à l'Assemblée nationale et au Sénat pour tenter de faire adopter les mesures anti-Covid comme le pass sanitaire, qui rencontre de plus en plus d'opposition. Et puis plusieurs associations attaquent aujourd'hui l'État pour appeler à arrêter ce qu'ils appellent les contrôles aux faciès. On sera dans ce journal en direct avec l'avocat Slim Benachour à l'origine de cette procédure inédite en France. La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Olivier.
On va donc être à Toulouse dans un instant où il fait chaud, mais les orages arrivent, Peggy.
Oui, demain, par l'ouest, ça concernera la Bretagne essentiellement. D'ailleurs, le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan sont en vigilance orange aux orages. Des orages beaucoup plus violents l'après-midi, beaucoup de pluie, de la grêle, de fortes rafales de vent. Et puis ailleurs, un temps sec avec des entrées maritimes, donc nuageux sur l'Aquitaine le matin, très beau ailleurs. Bien nuageux l'après-midi sur la façade atlantique, un léger voile sur le reste du pays. Et les orages vont arriver sur la partie centrale du pays en soirée. Ils risquent d'être localement forts. Les températures, elles seront en hausse à l'est, jusqu'à 36 à Grenoble, 35 à Toulouse, 34 à Montélimar, 31 à Strasbourg, Paris et Reims, 23 à Cherbourg. Et je rappelle qu'il y a toujours deux départements en vigilance orange crue, l'Oise et l'Aisne.
Merci beaucoup, Peggy Broche. En deux mots, vos rendez-vous d'ici 19h, les conseils télé comme tous les soirs d'Isabelle Morilly-Bosque, c'est à 18h25. Et puis les Dutron, père et fils, dans Laissez-vous tenter, ce sera à 18h45. Merci d'être avec nous sur RTL.
RTL Soir.
Il est donc là, et bien là, grand soleil aujourd'hui partout en France et la chaleur qui va avec. On l'a tellement attendu qu'on ne va pas se plaindre. L'un des records du jour, il était à Toulouse, autour des 36 degrés. Rien d'exceptionnel pour la région, mais on retrouve quand même une atmosphère, disons, plus conforme à la saison estivale, Patrick Tégéraud.
Oui, c'est l'été qui s'installe enfin. Et quand il fait chaud à Toulouse, on fuit la fournaise du Capitole pour se retrouver à l'ombre des arbres centenaires de la place Wilson. David était un glacier.
Heureux, mais c'est presque trop chaud. Les gens quand même vont venir plus à la fraîche ce soir, mais quand même on bosse bien, on est content, il vaut mieux ça que de la pluie.
Et la glace fond dès que vous l'amenez sur la terrasse alors?
Il faut courir et manger vite, mais ça va, ça tient.
Anne Fleur est une de ses clientes hésitantes.
Je sais pas encore justement, ils ont pas mal de choix, mais sûrement du chocolat je pense. Je pense qu'on en profite justement pour se faire plaisir. Il fait très chaud mais on a eu pas mal de pluie avant, donc c'est normal, c'est l'été.
Augustin et ses amis ont choisi un banc stratégique à l'ombre et dans un courant d'air pour déguster d'énormes gaufres.
C'est juste par pure gourmandise. On a l'ombre, un peu d'eau fraîche et puis la casquette, la crème solaire, tout ce qu'il faut, ça va à peu près.
Bah, je viens de Lyon, ils avaient prévu 35 degrés à Lyon et là 37, donc c'est un peu dégoûté, mais au final ça passe très facilement.
Il y a la fontaine de la place Wilson et donc ça rafraîchit, on a l'impression d'être à la mer.
Alors si la nuit s'annonce pénible, largement au-dessus de 20 degrés, le très beau temps reviendra demain avant les orages, promis pour le week-end.
Merci Patrick Tégéraud, correspondant RTL à Toulouse, où il a fait donc presque 36 degrés à Toulouse. Le record du jour, c'était à La Rouvière, dans le Gard, il a fait très précisément 37 degrés 3. Alors malheureusement, notre été est perturbé par ce variant Delta qui gonfle une quatrième vague plus puissante chaque jour. Au Parlement, la course contre la montre continue, avec l'objectif pour le gouvernement de faire adopter le plus vite possible ces mesures anti-Covid, à commencer par ce pass sanitaire, dont les modalités d'application continuent d'être très discutées. Vincent de Rosier.
Oui, des pressions très fortes de plusieurs députés, notamment pour que ce pass sanitaire ne soit pas réclamé en plein air, comme sur les terrasses des cafés, des restaurants. Mais avec le variant Delta, c'est hors de question, répond Olivier Véran.
Lorsque vous êtes contaminé, vous crachez du virus à tout va. Donc la question, est-ce qu'on peut se contaminer en terrasse d'un restaurant ou d'un café? La réponse est oui.
Amendement rejeté, donc, tout comme ceux concernant les jeunes, les 12-17 ans. Une partie de l'opposition demande qu'ils ne soient pas concernés par ce pass. Là aussi, le gouvernement dit non avec le secrétaire d'État, Adrien Taquet.
Les enfants sont des vecteurs du Covid. C'est la raison pour laquelle nous maintenons l'impératif à ce que les mineurs soient également soumis à cette obligation liée au pass sanitaire.
Un nouveau veto gouvernemental sur un sujet politiquement très sensible. D'ailleurs, Marine Le Pen, qui fait rarement le déplacement à l'Assemblée, essaye d'en tirer profit.
Je voudrais quand même attirer votre attention sur la situation des jeunes. Les jeunes qui ont été confinés, isolés, précarisés, qui pour beaucoup se sont retrouvés séparés de leur famille. Il s'agit là, à l'égard de notre jeunesse, d'une profonde injustice.
Mais parfois, les députés font aussi plier le gouvernement. Il y a moins d'une heure, ils ont voté contre le recours au pass sanitaire pour les patients non urgents et les visiteurs dans les hôpitaux et les EHPAD.
Merci beaucoup Vincent Derosier du service politique d'RTL. Sur la campagne de vaccination, elle doit encore s'accélérer. Plus de 5 millions de personnes souffrant de comorbidité ne sont pas encore vaccinées en France. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'assurance maladie, qui note tout de même une forte progression ces derniers temps. Alors l'espoir, on le sait, c'est qu'avec la vaccination massive, le nombre de formes graves soit plus limité que pendant les précédentes vagues et que le système hospitalier puisse in fine encaisser le choc. C'est ce qui se passe pour le moment en Grande-Bretagne, Marie Billon.
La remontée épidémique, le docteur Long Gongjo, urgentiste dans un groupe hospitalier du sud de Londres, il en a la preuve tous les jours. Mais cette troisième vague n'a quand même rien à voir avec la deuxième, assure-t-il.
On n'est même pas à ce niveau-là, on ne peut même pas comparer. En fait. Nous avons 41 malades au total dans l'hôpital, qui ont été hospitalisés avec la Covid. Et le mercredi de la fois passée, nous avions 17. Donc, si vous regardez les statistiques, vous allez dire qu'il y a 100% d'admission en une semaine. Bon, mais quand vous regardez le nombre, en fait, c'est pas aussi alarmant que ce qu'on avait la fois passée, quoi.
Les plus gravement atteints, affirme le docteur Long Gongjo, sont les personnes âgées qui ont rejeté la vaccination. Son groupe hospitalier a enregistré 2 décès la semaine dernière. Mais la plupart des malades qui arrivent aux urgences, par contre, ce sont des jeunes, ceux qui n'ont eu accès à la vaccination que ces dernières semaines. La majorité rentre à la maison le jour même, précise-t-il. Alors même s'il s'attend à une augmentation du nombre de patients ces prochains jours, le docteur Long Gongjo ne prévoit pas que ces services seront à nouveau submergés.
Merci Marie Billon à Londres. Ceci dit, ils ont un autre problème, les Britanniques. Avec 50 000 cas positifs détectés tous les jours, des centaines de milliers de Britanniques se retrouvent cas contact et contraints à l'isolement. Et en une des journaux, aujourd'hui, s'affichent les rayons vides, par exemple dans les supermarchés. Faute de personnel, une partie de l'économie tourne en effet au ralenti. En bref, toujours le Maroc attaque en justice les organisations qui l'accusent d'avoir eu recours au logiciel israélien Pegasus pour faire espionner des journalistes français ou des opposants politiques. Emmanuel Macron, dont l'un des numéros fait partie de ceux qui auraient pu être visés par une surveillance, a tenu sur la question un conseil de défense dont rien n'a filtré, si ce n'est la volonté de pousser plus loin les investigations. On va parler maintenant de l'une des conséquences économiques de la crise sanitaire. Pendant toutes les périodes de confinement ou de restrictions, les Français ont beaucoup plus épargné que d'habitude, 142 milliards d'euros de plus en 2020. Et ce magot attire la convoitise d'arnaqueurs en tout genre. Bonsoir Nerissa Emani.
Bonsoir.
L'Association de défense des consommateurs voit d'ailleurs se multiplier ces dossiers de vol.
Oui, et tout commence sur les réseaux sociaux. Le consommateur est attiré par des publicités de banques qui promettent des livrets A avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 5%, soit 10 fois supérieur au taux actuel. Une fois sur le site, il faut donner ses coordonnées pour être rappelé par de faux conseillers bancaires, comme l'explique Guy Grand-Girard, président de l'Association d'aide aux consommateurs de France.
Les personnes qui contactent les consommateurs utilisent des noms qui sont des noms frauduleux de vraies banques qui existent. Ce sont des clones. Et on est actuellement à 35 banques dont le nom a été détourné. Ce sont des banques en ligne. Parce que, en fait, il faut éviter que les clients aillent dans l'agence pour montrer les documents et qu'on leur dise « Mais attendez, on fait jamais ça ».
Car dès que le consommateur souhaite récupérer l'argent investi, la banque disparaît. L'association traite plus de 1900 dossiers et les arnaques au placement en tout genre augmentent depuis le début de la crise sanitaire.
On est à un préjudice pour les 6 premiers mois de l'année d'environ 30 millions d'euros. Sur ces 30 millions, on en a à peu près la moitié qui sont sur les livrets. C'est vraiment extrêmement considérable et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je constate un accroissement.
Alors pour éviter ces arnaques, l'association conseille de se méfier dès que le taux du livret dépasse 1% et d'envoyer un mail à la banque officielle pour vérifier que leurs produits existent.
Attention aux trop bonnes affaires. Merci beaucoup Nerissa Emani du service économique et social d'RTL. C'était le 2 juin dernier, une panne exceptionnelle sur les numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18, le 112, pendant toute une soirée et avec ce soir-là des conséquences dramatiques hein, puisque 6 personnes avaient perdu la vie, il n'avait pas pu être pris en charge rapidement. L'enquête montre aujourd'hui que l'opérateur Orange a été touché ce soir-là par une erreur sur une opération de maintenance et de surcroît par une panne de logiciel. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Mais surtout, ce rapport montre qu'Orange n'avait pas les procédures d'urgence adéquates.
Oui, l'opérateur a mis beaucoup trop de temps à réagir. Il lui a fallu une heure avant de comprendre que la panne touchait les services d'urgence. Pour éviter que ça se reproduise, le rapport préconise la mise en place d'une surveillance accrue pour ces appels prioritaires et vitaux. Aujourd'hui, leur bon fonctionnement n'est pas plus surveillé que celui des communications ordinaires. Orange est aussi épinglé pour sa lenteur à prévenir les autorités et à mettre en place une cellule de crise. Selon le rapport, il a fallu 2 heures. L'opérateur, conscient de cette faiblesse, était arrivé aux mêmes conclusions après sa propre enquête interne. Son objectif est de réduire ce délai à 30 minutes maximum. Face au manque de réactivité de l'entreprise, le rapport préconise aussi de réaliser régulièrement des exercices de crise au cours desquels serait simulé un grave dysfonctionnement. Tous les opérateurs devront y être soumis. Le premier est prévu dans les 6 mois à venir.
Merci beaucoup Sophie Jousselin. En bref, Valérie Pécresse officialise sa candidature pour la présidentielle. Récemment réélue à la tête de la région Île-de-France, elle ne fait plus partie des Républicains, mais Valérie Pécresse se déclare favorable à la tenue d'une primaire.
RTL Soir, Olivier Bois.
C'est une première en France. Un collectif de 6 ONG, dont Amnesty International, a saisi aujourd'hui la justice à travers une action de groupe pour enjoindre l'État à cesser ce qu'ils appellent les contrôles d'identité au faciès par la police. Bonsoir, maître Slim Benachour.
Bonsoir.
Vous représentez précisément ces ONG. Vous lancez cette action parce que vous estimez en fait que rien n'est fait depuis des mois, voire des années sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Et nous utilisons un nouvel outil judiciaire qui s'appelle l'action de groupe, qui est assez connu outre-Atlantique sous la dénomination de class action. Il ne s'agit plus d'actions individuelles, même présentées avec collectivement, c'est-à-dire plusieurs dossiers individuels. Là, il s'agit d'une action de 6 organisations qui représentent en réalité les milliers, centaines de milliers, voire millions de personnes concernées par les contrôles aux faciès.
Et qu'est-ce qui se met en route d'un point de vue judiciaire ensuite? Il peut y avoir des auditions, le ministre de l'Intérieur peut être amené à s'exprimer dans le cadre de cette procédure.
Alors c'est une procédure qui, l'introduction de la procédure se fait devant le Conseil d'État directement. Donc il s'agit de la plus haute juridiction administrative du pays. Et le Conseil d'État est maître de la procédure et c'est lui qui donnera le rythme et qui fera des demandes. Et au terme de cette procédure, nous aurons une audience comme vous les connaissez, c'est-à-dire une audience avec des plaidoiries.
Et il y a quelques mois pourtant, Emmanuel Macron s'était exprimé sur le sujet. Il avait lui-même reconnu que les contrôles aux faciès étaient une réalité. Il les avait condamnés d'ailleurs. Ses propos sont restés sans action derrière.
Oui, c'est le problème. Dire les choses, c'est bien, mais faire des choses, c'est mieux. Parce que là, on est en réalité dans l'incantation depuis des années. Tout le monde se plaint des contrôles aux faciès, tout le monde les reconnaît, mais rien n'est fait. Ce qui pose un sacré problème. Et donc, nous avons la solution grâce à l'action de groupe. À problème systémique, solution systémique. Et nous allons demander aux juges, au Conseil d'État, d'imposer une réforme qui va dans plusieurs sens, une réforme des contrôles d'identité en France.
Et on entend parfois des policiers, pas tous, hein, mais certains, dire on nous demande d'être présents dans les quartiers difficiles, où de fait, il y a une plus grande part de population ici de l'immigration, et donc ça se reflète sur les contrôles d'identité. C'est un argument à la fois que vous avez entendu auquel vous répondez quoi ?
On répond déjà que les autorités policières et politiques le savent. Les contrôles d'identité, même dans les quartiers que vous citez, ne donnent rien. Le taux de réussite, en réalité, de révélation d'une infraction à l'occasion des contrôles d'identité, c'est 3 à 4%. 3 à 4% des contrôles. Vous avez plus de 90% des contrôles qui ne donnent rien, et dans ces 3 à 4%, vous avez le fameux outrage et rébellion, c'est-à-dire que c'est le contrôle illégal de la police qui génère une infraction. Donc c'est une habitude, une pratique française qui n'existe pas ailleurs, hein. Le contrôle de routine n'est pas une fatalité, ça n'existe pas en Allemagne par exemple. Eh bien ce contrôle à la française, il est inutile, il est inefficace et il est dangereux. Hein, je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé en 2005, et puis c'est dangereux aussi pour les policiers.
Merci beaucoup. Merci Maître Slim Benachour d'avoir été sur RTL avec nous ce soir. Je rappelle que vous représentez ce collectif d'ONG qui attaque donc l'État sur les contrôles au faciès. En bref, l'ancien policier de la DGSI, des services de renseignement français, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir vendu sur le Darknet des fichiers de police confidentiels. Il se faisait appeler Horus et il a été aujourd'hui incarcéré. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Eh bien, la bonne nouvelle du jour, c'est l'optimisme des Français qui croient en nos champions à Tokyo. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir Olivier.
Notre sondage Odoxa, Kenéo, RTL est très clair. Les Français y croient, ils font confiance notamment au judoka.
Un troisième titre pour Teddy Riner, une première consécration olympique pour Clarisse Agbegnénou. 31% des Français, 36% des amateurs de sport pensent que c'est en judo, effectivement, que la France remportera le plus de médailles. Les judokas tricolores en avaient gagné 5 à Rio. 55% des Français, 81% des amateurs vont suivre ces Jeux de Tokyo. Une très large adhésion qui ne souffre pas du décalage horaire, plus 7 heures au Japon. Il faudra être souvent matinal pour ne rien manquer des compétitions. Bien sûr, on observe un regret lié au huis clos. 52% des Français regrettent l'absence du public dans les stades. 46% estiment, cela dit, que cela ne changera rien à l'intérêt qu'ils porteront à l'événement. Mais revenons aux médailles, qu'ils soient férus ou non de sport. Les Français, dans leur majorité, pensent que l'équipe de France olympique ne battra pas son record de médailles établi à Pékin en 2008 avec 43 récompenses. Il y en avait 42 en 2016 à Rio. Aux 166 femmes et 212 hommes qui composent la délégation, de déjouer les pronostics. Faites vos jeux, les jeux ne sont pas encore faits.
Merci Jean-Michel Rascol. Je ne sais pas si on aura une médaille en football, mais en tout cas c'est pas bien parti. L'équipe de France a joué son premier match et a perdu 4-1 contre le Mexique aujourd'hui. André-Pierre Gignac a marqué un pénalty, mais il reconnaît qu'il va falloir tout changer à peu près.
Aujourd'hui, on a manqué de tout. On a manqué de concentration, on a manqué d'agressivité dans le bon sens du terme. On a de la chance de ne pas repartir avec 5 ou 6 buts. C'est une vraie grosse contre-performance. Il faut aller chercher cette qualif. On n'a pas le choix, c'est ce qu'on a envie. On sait ce qu'il nous faut, les ingrédients qu'il faut mettre pour les prochains matchs. Et j'espère que tout le monde va se mettre au diapason parce qu'on n'a pas envie de rentrer en France après le troisième match.
Voilà la déception d'André-Pierre Gignac. Et puis sachez que Stéphane Carpentier recevra demain matin à 7h40 les deux porte-drapeaux français. Donc avant la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, il recevra Clarisse Agbegnénou et la judoka et le gymnaste Samir Aït Saïd. Il est 18h17 sur RTL. On va faire une courte pause. Et dans un instant, Alain Bernard nous fait l'honneur d'être l'invité d'RTL Soir, le champion olympique de natation. Évidemment, c'était à Pékin en 2008. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir.